Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com.
Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 89. Mon nom est Paul Landriau et je suis avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Plante.
Avant qu'on commence l'épisode, j'aimerais juste ça qu'on revienne sur un petit débat entre toi et moi, Pascal, parce que bon, il y a eu une petite confusion. Toi, tu parlais de films de gangsters, moi, je parlais de films noirs.
Hi, c'est vrai! Ouais. C'est vrai, ça.
Bon, en fait, c'est qu'il y a plusieurs écoles de pensée là-dessus, puis bon, moi, je suis vraiment pas un spécialiste, mais je me demandais pourquoi que j'avais pensé que c'est des films noirs, alors que tu me disais, non, non, dans les années 30, on parle plus de films de gangsters. Le film noir, ça commence vraiment avec.
Maltese Falcon de Johnny Houston, qui est souvent considéré comme le premier film noir. Ça, Maltese Falcon, c'est 41. Ouais. Donc, les films noirs, c'est vraiment le genre qui s'est perpétré jusqu'à milieu des années 50. The Night of the Hunter est considéré encore un peu comme un film noir. La définition est assez large. Comme, tu sais, mettons Sunset Boulevard, il le considère comme un film noir. Mais, tu sais, ouais. C'est un peu flou. Mais en tout cas, c'est vraiment comme une espèce de. Du début des années 40 à la fin des années 50, au milieu des années 50. Ouais. Normalement, c'est de ça qu'on parle.
Mais, c'est ça, d'autres écoles de pensée, genre, il y en a qui situent ça avec le premier film, dans le fond, qui influencerait et qui. Ce serait comme un peu le grand-père du film noir, ce serait Underworld en 1927 de Strindberg. Et certains pensent que le film noir, ça, faut inclure aussi. Comme le gangster, serait comme une espèce de sous-genre du film noir.
Mm-hmm, mm-hmm.
Donc, tout ça pour dire que j'avais pas sorti ça de mon chapeau. Et que, mais bon, on pourrait peut-être plus parler des films que tu as parlé comme des films de gangster. Bon.
Je vais pas me donner un peu du crédit, là, mais j'avais quand même comparé les films que vous parliez à Heat, puis les films de,
Michael Mann.
De Scorsese, en fait, ouais. Michael Mann. Puis en fait, c'était vraiment plus connexe à ça qu'avec le film noir, effectivement. Là. C'était pas une évolution du film noir, c'était vraiment une autre branche. Là.
Ouais.
Fait que...
Donc, bref, on a tout un peu les deux raisons, là, on va dire.
Bon, voilà. Bravo. On serre la main, Paul. C'est bon, on a réglé nos différends. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les actualités cinéma cette semaine?
Pas grand-chose, je te dirais. Pas je vais laisser ça vide. Est-ce que vous avez quelque chose à souligner?
Ben, pas, toi? Non, je sais pas, non.
Vraiment pas, en fait.
Donc, non, on peut plonger dans nos reviews, là.
Il y a les Justras qui arrivent, en fait, puis ça annonce notre deuxième anniversaire aussi, là.
Ouais,
on doit être pas loin là, de notre date qu'on a commencé il y a 2 ans, là.
Ouais, j'ai pas fait de recherche, mais c'est ça, c'était en mi-mars, à peu près, fin mars. Fait que on a plus ou moins 2 ans la semaine prochaine, j'ai l'impression.
C'est cool, on a à peu près cet âge mental-là aussi, fait que c'est bien.
Ben... pour l'occasion, Paul, il va réécouter tous les épisodes, puis il va faire un clip show, il va aller chercher les meilleurs moments des 89 épisodes qu'on a fait. Merci Paul, c'est vraiment gentil de faire ça pour notre deuxième anniversaire.
Ouais, c'est un bon cadeau, Paul. Vraiment merci.
Très heureux.
On va y aller tout de suite avec nos critiques parce qu'on a beaucoup de films qu'on veut vous parler et on veut finir notamment sur un peu une rétrospective Lars von Trier en prévision de son Infomaniaque qu'on a vu moi et Rémi.
Donc les gars, on se met d'accord, c'est von Trier. On von Trier, là, on le dit une fois, puis c'est bon. Lars von Trier.
Avec l'accent, le Lars von Trier.
OK, c'est bon, parfait. C'est réglé.
Donc, premièrement, Pascal, tu as vu un film dont on dit meilleur que Le passé, L'inconnu du lac et La vie d'Adèle.
Ben écoute. Ben oui, effectivement, cette semaine, j'ai vu Les garçons et Guillaume à table de Guillaume Gallienne. C'est un... effectivement, tu m'as vendu la mèche, mais c'est le film qui a gagné le César du meilleur film français cette année, qui est pas banal. D'ailleurs, devançant le film de Kechiche, donc devançant La vie d'Adèle... Kechiche était quand même un chouchou beaucoup hein, des Césars. Il avait gagné notamment avec L'Esquive. Il avait gagné avec La graine et le mulet. Très, très mérité d'ailleurs avec La graine et le mulet en 2007. Donc, il me semble qu'il y avait des options. L'inconnu du lac, il y a beaucoup de magazines qui le considèrent vraiment comme un film pilier, un film très important aussi. J'ai vraiment l'impression que c'est un film qui va traverser les époques. Et malheureusement, je ne peux pas en dire autant des garçons Guillaume à table. Écoute, je suis sûr que je l'attendais avec une brique et un fanal. Quand tu vois un peu que c'est une espèce de comédie grand public comme ça, rafle la mise sur des films qui, j'estime, vont justement devenir des classiques intemporels, tu les as nommés. Je pense que Le passé, La vie d'Adèle et L'inconnu du lac. Maintenant, on met souvent les gens en garde parce que les comédies sont souvent snobées un peu dans le milieu des galas et des remises de prix. Et c'est pas le fait que ce soit une comédie grand public qui gagne le problème, ce n'est vraiment pas le cas. C'est tristement que le film n'est pas à la hauteur, à mon humble avis, n'est pas à la hauteur. Je vais y venir, là, je vais faire une vraie critique, mais juste grosso modo, là, le film m'a vraiment pas branché pour plusieurs raisons. Donc, Les garçons et Guillaume à table, c'est l'histoire très autobiographique de Guillaume Gallienne qui joue son propre rôle. D'ailleurs, il s'appelle Guillaume dans le film. Il grandit avec ses frères, très masculin. Lui, il est très efféminé. D'ailleurs, un peu, probablement pour se défendre un peu de toute la pression qu'il subit, il commence à imiter les femmes autour de lui, et plus spécifiquement sa mère. Sa mère qui, dans le film, est interprétée également par Guillaume Gallienne. Donc, dans une double performance, c'est très bien.
Donc, le synopsis, ça évoque un peu Crazy, finalement.
Bah, écoute, un peu, mais je veux dire...
Non.
Pas, non, mais en même temps, le film a quand même beaucoup de différences. Là. C'est bon. Puis Crazy se promène beaucoup à travers les époques. Nous, on ramasse vraiment le personnage de Guillaume Gallienne, oui, sur la durée, tu sais, mais en même temps, c'est toujours lui qui joue son rôle. Il n'est jamais, mettons, adolescent, le coming of age, là, tant que ça. Alors que je crois que dans sa vraie histoire, ce que j'ai lu, c'est que sa dépression liée à son identité sexuelle ambivalente, il l'a vécu beaucoup plus tôt, en fait. Il l'a vécu alors que lui-même avait peut-être 12 ans. Mais le film le prend plus ou moins adulte. Mais en même temps, le film est un peu comme une fable. Hein? Le temps, justement, est brouillé. Des fois, t'as vraiment l'impression que lui-même joue le personnage de lui vraiment plus jeune. Donc, ça m'étonnerait pas, en fait, que en fait, il se joue à 12 ans comme il se joue à 20 ans, comme il se joue à 25 ans ou à 30 ans. C'est assez intéressant à ce niveau-là. Aussi, c'est très stylisé de la façon comment il joue sa mère aussi. Bon, il y a quelque chose de très surréaliste dans un sens et toujours avec une vocation de faire rire. C'est une comédie pleinement assumée. Problème numéro un du film, le film ne m'a pas fait rire. non, mais vraiment, ouais. Le film il fonctionne bien mieux au niveau de... Le film est attendrissant. Le personnage est attendrissant. Quoique, hein, je trouve qu'il s'infantilise vraiment beaucoup, si bien que il devient un peu une caricature, j'ai trouvé, un peu cliché dans comment, justement, ses manières, comment elle représente les femmes, comment... Puis, tu sais, c'est une espèce de dichotomie des sexes un peu primitive, je t'avoue. Là. Les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça. Ha, 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 c'est drôle. Mais allons un petit peu plus loin, s'il vous plaît. Là. Par contre, lui-même est très charismatique. Guillaume Gallienne, scénariste, acteur, réalisateur dans le film, quand même. Pas banal. Mais oui, en fait, c'est ça. Le plus grand péché d'un film qui se veut drôle et qui que je l'ai trop interprété avec ma tête du début à la fin, le film ne m'a pas permis, ne m'a pas ouvert pour que je m'abandonne à l'humour du film. C'est un film aussi microscopique. Il dure 1h26 avec 6 minutes de credits, donc 1h20. Comme je t'expliquais off-record, Paul, que ce film-là gang sur la vie d'Adèle, je trouve ça je vais utiliser le mot aberrant. C'est aberrant, à mon avis. Parce que vraiment, là, tu le vois, le film, c'est microscopique, puis on dirait qu'il en rend 10 des garçons Guillaume à table dans un film comme La vie d'Adèle. Tu sais, je veux dire, c'est même pas la même ligue. On parlait d'Hulk Hogan puis de Rocky, là, le dernier épisode. Là. Sérieusement, là, mais là, c'est probablement encore mieux adapté. Je sais pas, c'est poids-plume contre un poids lourd. Ça n'a même pas de sens de les faire compétitionner ensemble et ça n'a encore moins de sens que le film gagne sur les autres. Bon. Donc, il va subir un backlash à cause de ça. J'ai essayé d'en faire un procès honnête, mais voilà, en fait, le film est...
Et pour ceux, mettons, qui ont déjà vu La vie d'Adèle, qui sont fans de comédie, est-ce que tu le recommandes quand même ou même à ça, ça vaut pas la peine?
C'est pas que le film ne vaut pas la peine parce que le traitement est très différent et je pense que le film traite de sujets qui méritent qu'on s'y penche et il le fait sans grande prétention aussi, avec un souci d'acceptation, d'humour. C'est un film qui reste très humain et très touchant au final aussi, qui, je crois, peut attendrir le plus, le cœur le plus dur d'entre tous, là. et aussi, je veux dire, c'est quand même un film qui traite d'ambivalence sexuelle, d'identité sexuelle en marginale, entre gros guillemets, en France, à une ère où, on le sait, c'est pas nécessairement... donc, un film comme ça gagne, il y a quelque chose, de, entre guillemets, un peu politique. Donc oui, c'est pas seulement la comédie bonasse, inoffensive. Je crois qu'il y a quand même plus au film. Donc, ne serait-ce que pour ça, je veux dire, il y a quelque chose qui se passe, puis... Mais, tu sais, serait-ce que, je veux dire, tu le compares aux autres, puis le film est voué à avoir un backlash, parce que ça reste, à mon humble avis, aberrant qu'un film comme ça mérite autant d'éloges.
Parfait. Sinon, nous, on a profité d'une rediffusion d'un classique film culte au cinéma du parc.
All right.
Gone Crazy de Joseph Lewis, un film de 1950. Un film que j'avais vraiment jamais entendu parler. C'est pas un réalisateur non plus connu, à ma, du moins de mon côté. Là. Je sais pas à quel point c'est un cinéaste connu des cinéphiles. Et c'est un film vraiment que je pense qu'on peut comparer au premier film de Kubrick. Là. Il y a un peu une esthétique puis certains thèmes qui se rapprochent de ça. Je vais faire un synopsis rapidement. Gone Crazy, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Bart. ça, c'est drôle parce qu'il va y avoir il y a un épisode des Simpsons, je pense, qui sont inspirés de ce film-là. Et en gros, Bart, il a pas vraiment. Bon, il est orphelin, c'est sa grande sœur qui l'élève. Et il trippe sur les guns, il trippe sur les fusils. C'est un peu sa seule passion, son seul hobby dans la vie. À un moment donné, il en amène un d'ailleurs à son école primaire. Là. Puis il se fait gronder par la professeure, évidemment. Puis éventuellement, il vole un fusil au tout début du film. Et il se fait, dans le fond, il va au tribunal. Et c'est sa sœur qui dit « Ah, mais je vais m'occuper de lui, etc. » Donc là, le film va très vite. Hein. C'est vraiment un film là, de 85 minutes, de 1h25, et on perd pas son temps.
Oui, il couvre énormément de terrain, d'ailleurs, ouais. C'est ça. Donc on commence au début, là, il se fait mettre en maison de correction, et il revient plus tard. En tout cas, je te laisse continuer.
Ben c'est ça, en gros, il revient dans sa ville natale comme des années plus tard, là, il est rendu un beau jeune homme, début vingtaine, et dans le fond, il est allé dans l'armée aussi, mais il était tanné d'être là-dedans. Donc là, il revient dans sa ville natale avec pas trop de plans de carrière, un peu d'argent en poche, une belle collection de fusils. Et puis là, il retrouve des amis d'enfance. Éventuellement, ils vont cette journée-là, ils vont à la foire de la ville, une espèce de petit cirque qui se passe. Ils vont voir un show et c'est comme une fille, une espèce de numéro de cirque, là, que c'est une tireur d'élite, là, puis elle pète des ballons vraiment bien, etc.
Et ça, lui, avec évidemment. Ses guns, là, tu sais. Ouais, lui, il est complètement pâmé sur la fille.
Ouais, c'est ça.
Une scène extrêmement érotique, là, dans un sens un peu étrange, mais extrêmement érotique, là. Je veux dire, des plans sur ses courbes, sur ses fesses pendant qu'elle tire du gun. Ouais. C'est vraiment troublant pour un film de 1950, je t'avoue. Une superbe scène. Et puis là, justement, je vais prendre ta balle au bon à ce moment-là. Là, le gars, il est complètement pâmé sur elle. Et suite à ça, s'ensuit une romance, mais une romance entre deux amoureux des armes à feu, ça va pas nécessairement bien aller. Donc après ça, le film s'en va dans des zones qui rappellent beaucoup Bonnie and Clyde. Disons ça simplement. Vraiment, moi, j'ai été agréablement surpris. J'ai trouvé que c'était un film extrêmement audacieux et extrêmement moderne aussi. On en parlait aussi, mais tu sais, les films des années 50 comme ça, un peu série B, avec des acteurs moins connus, tout ça. Souvent, en fait, c'est des films qui sont très libres. C'est des films qui n'ont pas peur, en fait, d'attaquer de front certaines thématiques ou de la sexualité un peu plus, de façon plus audacieuse.
En plus de se permettre beaucoup d'expérimentation au niveau du style, ou de la mise en scène. Style.
Parce que dans Gone Crazy, entre autres, il y a un plan qui rappelle pratiquement le Spring Breaker, le cambriolage dans Spring Breaker, où un de leurs premiers braquages, en fait, qu'on suit, t'as les deux personnages, la caméra est dans la voiture. Puis, tu sais, c'est un plan qu'on ne devait pas avoir vu 12 millions de fois à l'époque à cause de la lourdeur de l'équipement. Mais là, la caméra, c'est ça, les suit dans la voiture, il n'y a pas de rear projection, on est vraiment avec eux. Et puis là, c'est ça, ils se stationnent devant une banque ou je sais pas trop. Le gars, il sort, la fille reste dans le char. Là, il y a un policier qui arrive, la fille déjoue le policier comme ça, tout est en temps réel.
Ouais, c'est un plan séquence.
Un plan séquence en temps réel comme ça. Vraiment bien fait par souci de garder le thrill en temps, tu sais, c'est ça, en temps réel, finalement. Là. C'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant, vraiment audacieux.
Ben d'ailleurs, hier, tu me parlais, on s'en parlait entre nous, à quel point le film est intéressant aussi, la question des genres, parce que c'est un peu comme si... c'est vraiment la femme qui lead le couple dans le film. Et il y a comme tout un jeu, en fait, entre qui un peu porte les culottes dans le couple. Et justement, il y a une scène qu'elle est employée de bureau, puis elle se fait reprocher de ne pas être en jupe et de porter un pantalon. Donc, plein de petits détails comme ça qui sont intéressants aussi dans le film. Surtout pour ces années-là.
Oui, exactement. Puis aussi, par exemple, c'est ça, comme on disait, oui, la femme, des fois, a un peu le rôle de l'homme, et c'est aussi toujours l'homme qui a plus de questionnements éthiques et moraux, veut pas nécessairement commettre de meurtre, il le fait, mais il le fait pour elle, par amour. Une espèce d'amour sauvage aussi, très bien représenté. D'ailleurs, la romance est très intéressante dans le film. Mais elle, quand même, la séduction est au cœur de toutes ses motivations. Je veux dire, tu sais, la femme, elle est pulpeuse, elle est, je sais pas, elle manipule beaucoup, mais avec ses attraits, ses charmes, tu sais, c'est très c'est la luxure beaucoup en fait qui fait en sorte que l'homme en fait tombe dans une espèce de spirale. Par contre, elle est bien plus complexe qu'une simple manipulatrice vamp. C'est quand même un personnage qui est développé, qui est intéressant, qui a un passé trouble à ce qu'on croit comprendre. C'est une belle exploration de personnage dans une psychologie qui va plus loin que ce qu'on s'attend dans ce genre de film-là. Moi, a priori, je suis vraiment pas un grand fan de Bonnie and Clyde, mais celui-là, vois-tu, pour un film qui est quoi, 14 ans plus tôt, 15 ans plus tôt, je trouve que c'est un film qui est au moins aussi audacieux.
Ouais, non, tout à fait. Puis encore une fois, c'est vraiment, moi, ça m'a surpris au niveau de la mise en scène. Il y a vraiment des bonnes idées, outre la scène que tu mentionnais. Il y a une espèce de long plan, un tracking shot, là, un traveling, sur l'homme qui est dans une boucherie, puis qui passe devant les rangées de carcasses, puis là, il se prépare à faire un coup. Puis là, c'est comme les regards menaçants autour de lui, il est angoissé, il veut pas se faire prendre. Puis c'est vraiment un long plan stylisé qui. Moi, c'est ça, ça me rappelait beaucoup un peu l'esthétique de Killing et de Killer's Kiss de Kubrick.
Ouais.
Puis il n'y a pas à rougir de la comparaison, je pense, là.
Ouais. Puis aussi, c'est intéressant de dire où est-ce qu'on l'a vu, le film, puis un peu l'histoire derrière le film, parce qu'il joue au cinéma du Parc.
Ouais.
D'ailleurs, 2 pouces en l'air, hein, pour une programmation audacieuse du cinéma du Parc. Je veux dire, c'est un classique, mais c'est plus un espèce de cult classique, tu sais. C'est le genre de film, j'ai l'impression, qui s'intégrerait aussi dans une programmation quasiment avec des films de Russ Meyer, le genre Faster Pussycat, Kill Kill, tout ça.
Ouais.
Bon, c'est peut-être plus raffiné, c'est moins déjanté, mais c'est ça, ça a un peu cette espèce d'aura-là de film culte. Un film qui a quand même, malgré le fait qu'il était un film de série B, qui est passé un peu en dessous des radars, reste que ça a été un film qui a posé certains problèmes au studio à l'époque. Il y a des séquences qui ont été tronquées, qui ont été triturées au montage, et puis là, en fait, on le voit dans une version restaurée, qui est présentée comme ça au cinéma du Parc. Donc, c'est merveilleux, c'est l'occasion de le voir.
Ouais.
Et, du coup, ça me fait un film de moins à voir dans la fameuse liste des 1001 films à voir, parce que je me suis rendu compte qu'il était dans la liste, et oui. Donc, un de moins, il m'en reste genre 340 maintenant.
Comme on est content pour toi, Pascal!
Ah, j'espère
que tu es content pour moi.
Donc, maintenant, je vous propose de passer sur le sujet de Lars von Trier.
Lars von Trier!
Bon, on va se garder le gros morceau pour la fin, l'infomaniaque pour la fin. J'aimerais ça, toi peut-être, Rémi, que tu lances le bal un peu, tes impressions sur le bonhomme, qu'est-ce que tu as vu de lui, est-ce que c'est un cinéaste que tu admires, que tu respectes, que tu... je sais pas.
Ben, moi, j'admire vraiment beaucoup son cinéma, mais de base, en fait, je pense que c'est une des personnes que j'aimerais le moins rencontrer de toute ma vie. Il est super fascinant comme bonhomme, mais en même temps, je le trouve vraiment effrayant. Un des premiers films que j'ai vu de lui, c'est un peu étrange là, comme premier Lars von Trier, c'est qu'au cégep, j'ai fait un court-métrage qui était une étude de style. Donc, c'était la même scène qui était reprise plusieurs fois, puis Lars von Trier, en collaboration avec un de ses cinéastes, un de ses amis, là, le nom m'échappe. Là,
c'est Jorgen Leff, là, genre quelque.
Oui, c'est ça, exactement. Donc, ces deux-là, en fait, ont fait un film qui s'appelle Five Obstructions.
Ouais,
donc, je l'avais écouté un peu en lien avec le projet que j'étais en train de faire pour m'inspirer. Puis, en gros, ça a été fait sur plusieurs années. Puis, c'est Lars von Trier qui a demandé à ce cinéaste-là de refaire un de ses courts-métrages plusieurs fois dans des styles donnés. Puis, c'était Lars von Trier qui choisissait le style qu'il allait lui donner. Fait que l'échange va un peu comme ça. Il va lui dire... what do you hate most in life? Là, le gars, il répond, well, I really hate cartoons. Puis il dit, well, you're gonna do a cartoon.
c'était un peu Kino, le film.
Un peu, mais c'est vraiment, ouais, c'est ça. Tout dans le négatif, en fait. C'était construire un film avec, genre, ce que tu détestes dans la vie. Puis on dirait que c'est un peu là-dessus qu'il base un peu sa carrière. Qu'est-ce qui le dégoûte dans la vie? Qu'est-ce qui est répugnant chez l'humain? Puis il va construire ses films autour de ça. Ouais. Reste que de la façon qu'il va construire ses films, c'est toujours tellement bien fait que t'as comme pas le choix de te rattacher au personnage puis de vraiment embarquer dans ses histoires. Quand tu regardes un film comme Dogville, qui s'éloigne vraiment des artifice du cinéma, puis qu'il fait juste présenter une histoire, des personnages, puis que tu t'attaches autant à l'histoire puis aux personnages, c'est que vraiment, t'as gagné le pari. T'as pas de mur, t'as pas de décor, t'as très peu d'accessoires, puis tu réussis à créer tout ce drama-là quand même.
Ouais.
Moi, je trouve que c'est vraiment un maître à l'œuvre. Puis ça, c'est vraiment... On sent que ça vient un peu de ses premières influences avec le Doug 94.
95.
95, c'est ça.
Ouais, mais en fait, parce que leur manifeste manifeste a été publié en 1995.
OK, ouais. OK.
Puis je pense que c'était aussi dans le cadre du centenaire du cinéma, puis une réflexion pour apporter un nouveau cinéma ou quelque chose comme ça. Et ouais. chaque film, c'était, mettons, le dogme premier, dogme deuxième,
c'est etc. Oui, c'est ça, c'est ça.
C'est Festen qui est crédité comme étant le, film, le premier film du dogme, en fait, en 1998, c'est ça?
Mais je trouve que tu vois...
Il me semble que c'est ça.
Il me semble que c'est ça,
ouais, ouais.
Ouais.
Mais c'est, tu vois vraiment cette trace-là, ce bagage-là qui va traîner avec lui puis qui va ramener dans ses films, même s'il y a maintenant, il y a les moyens de faire plus gros puis de faire, mettons, de s'éloigner de ce minimalisme-là, il garde quand même le bagage de travailler vraiment avec les acteurs, de travailler avec son histoire, puis que c'est ça son premier but, en fait. Puis après ça, il va mettre ce qu'il y a autour, mais il va vraiment se concentrer. Il s'en fout de c'est sûr que ses films sont très beaux, mais je pense pas que c'est sa première priorité dans ce qu'il fait. Puis ça paraît, là, ça paraît vraiment.
Ah, quoique, je sais pas. Ouais. Je pense que ça dépend des projets.
Ça dépend des projets, c'est ça. Je pense qu'il suresthétise à certains niveaux quand même de façon intense. Je veux dire, l'ouverture de Melancholia ou je veux dire, l'ouverture de Antichrist. Tu sais, c'est des séquences qui, à la limite, détonnent justement. Puis j'ai quasiment l'impression que c'est une réflexion anti dogme, en fait, pratiquement, je veux dire, c'est comme si maintenant, c'est comme, je suis rendu ailleurs, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de m'offrir un peu, tu sais, d'autres genres de trips, puis je l'affiche avec mes couleurs. Puis c'est vraiment fascinant, en fait, parce que j'avais vu une vidéo sur Facebook, sur YouTube, en fait, qui s'était partagée sur mon Facebook, où c'était, plusieurs parodies, en fait, c'est comme un mini-film familial que je pense que...
Ah oui, je l'avais vu, oui.
Tu sais, qu'un fan de cinéma avait fait dans le style de plein de réalisateurs. Puis moi, j'ai juste une drôle de réflexion. Quand le gars l'a fait, en fait, a fait une espèce de film homemade, avec, c'était dans le style de Von Trier, il a fait justement des espèces de slow motion avec la musique classique, un peu à la, justement, ouverture de Melancholia ou ouverture d'Antichrist. Mais c'est étonnant parce que c'est vraiment un départ de son style, hein.
Mm-hmm.
Antichrist, c'est vraiment le premier de ses films à aller dans ces eaux-là. Mais pourtant, maintenant, c'est tellement des points d'exclamation stylistiques que maintenant, j'ai quasiment l'impression que c'est ça du Von Trier esthétiquement. Or, je veux dire, Breaking the Waves, puis Dancer in the Dark, puis ces films-là, ou Dogville, on est très loin de ça. Donc, c'est drôle à quel point, justement, une espèce de deuxième souffle de carrière stylistique a un peu bouffé le premier genre. Et moi, en fait, je veux le dire cash, si j'avais à choisir, moi, je préfère le Von Trier pré-Antichrist, là, de loin. Oh. Mais bon, mais ça, c'est moi. Le Melancholia, je l'ai trouvé imbuvable, puis Antichrist, je l'ai trouvé tellement vil et perfide, et je trouve que c'est un film inutile, un peu.
C'est un film qui te reste en tête puis que tu le gardes avec toi, ce film-là. Là, il peut pas te laisser indifférent. Puis autant que Melancholia, je pense, mais c'est toi, Paul, qui me disais que ces films sont tournés en trilogie. Puis moi, je pense que c'est le contexte esthétique qui se donne. C'est un peu pour aussi imbriquer ces films ensemble. Là, parce que c'est la même esthétique. T'sais. Melancholia puis Antichrist, ça ouvre sur une séquence en slow motion. Puis après ça, le film est divisé en chapitres, chose qu'il faisait pas, il me semble, avant.
Non,
est-ce que Dogville est divisé en chapitres?
Ça fait trop longtemps que je l'ai
ça vu. Fait, ça fait assez, trop longtemps pour que je m'en souvienne. Là, on va se faire écrire sur le wall Facebook pour nous faire corriger. Mais il me semble que ces anciens films n'étaient pas comme ça. Puis la nouvelle trilogie, disons, là, est tout divisé en chapitres. Puis c'est vraiment plus des histoires qui sont racontées, mais par blocs. Moi, j'ai l'impression que l'esthétique qui se donne, c'est un peu pour rapper tout dans le même moton. Là. Mm.
D'ailleurs, Pascal, j'aimerais ça que tu nous dises un peu pour aussi continuer le questionnement de Rémi. C'était quoi ta première approche avec Lars von Trier? Avec quel film tu l'as découvert?
Je ne sais pas si c'est lui le premier, mais du moins, c'est le premier qui m'a complètement jeté à terre. Moi, je suis un immense fan de Dancer in the Dark. Vraiment beaucoup. Là, je me rappelle, je l'ai vu. J'étais tétanisé. C'était physique. Ma réaction au film, rarement, pour ne pas dire jamais, un film m'a autant pulvérisé. L'impact émotionnel de Dancer in the Dark, pour ceux qui connaissent pas le film, c'est le fameux film qu'il a fait avec Björk, autour d'une femme qui, lentement mais sûrement, devient aveugle. C'est un petit peu une imbécile heureuse, un peu victime, mais avec un bon cœur et tout ça, qui sauve un peu ses économies, qui fait tout ça. Et là, à un moment pivot dans le film, elle va commettre l'irréparable. Je vous en dis pas plus sur le contexte. Et puis là, ben, s'ensuit un peu une descente aux enfers au niveau de ce personnage-là.
Bon. Mais c'est encore un personnage féminin qui se fait bâcher comme dans la plupart de ses films.
Ouais, puis Von Trier, c'est un expert de la manipulation parce que je veux dire, il victimise tellement, tellement ses héroïnes que l'environnement devient tellement dégueulasse. Tu sais, tout le dans Dogville, par exemple, je veux dire, tout le monde est dégueulasse, est perfide et dégoûtant, tu sais. Il y a juste Nicole Kidman, puis si bien que dans une espèce de finale un peu choc qu'on dévoilera pas, on vient qu'à être content pour ce qui se passe, alors que c'est complètement bizarre qu'on soit content pour des malheurs de d'autres, mais je veux dire, le monde est tellement horrible. Donc, c'est quand même un expert de la manipulation. Il est beaucoup moins fin qu'un Michael Haneke, par exemple, quand même, là. Moins intellectuel, mais c'est toujours très, très, très viscéral. Puis je pense qu'il faut s'y abandonner. Parce que oui, dans Dancer in the Dark, oui, les séquences musicales, puis les moments où elle est donc, elle fait donc bien pitié, puis la pauvre. Puis oui, si on s'attarde à ces moments-là, on va peut-être trouver que le film est un peu maladroit dans sa construction scénaristique. Mais lorsqu'on s'y abandonne, le film devient physique. Le film a terminé, Dancer in the Dark. Je veux dire, j'avais la chair de poule. J'ai parlé à mes parents, tout ça. Je leur ai demandé s'ils avaient déjà vu le film. Ma mère l'avait déjà vu. On a comme discuté sur le film. Non, mais... chose rare, parce qu'en fait, je partage pas vraiment ma cinéphilie avec ma famille. Bon, ça, c'est moi très personnellement, là. Mais il a comme fallu que j'en parle, il a comme fallu que ça sorte. Je pouvais pas juste voir le film, le digérer à l'interne, puis plus jamais en parler. T'sais, c'est le genre de film que t'as pas le choix d'aller après ça sur IMDb, ne serait-ce que pour poster sur des message boards ou je sais pas quoi, mais il faut que ça sorte. Donc, c'est le signe d'un grand film.
Ouais.
Donc ça a été mon approche avec Dancer in the Dark. Breaking the Waves m'a fait le même effet à un degré un peu moindre quand même. Je suis pas prêt à dire que je préfère Breaking the Waves, mais c'est un autre film qui est c'est un coup de couteau là, au bon endroit. C'est des films qui sont vraiment difficiles, mais pas difficiles d'accès tant que ça, paradoxalement.
Intéressant. Moi, ben en fait, je suis sûrement lui qui est le moins familier avec le cinéaste de nous trois. Mon premier film que j'ai vu de lui, c'est Mélancolia.
Ah ouais.
Donc c'est très très récent, hein, puis je l'ai vu à la sortie. J'avais vraiment adoré Mélancolia.
Ok.
Je trouvais que c'était un film qui... Je sais que des fois, il se fait traiter justement d'un peu de...
Poseur,
d'esthète, ouais, puis d'être provoque, un peu pour rien. Je pense que Mélancolia, c'est un film qui a une bonne balance là-dessus. C'est pas nécessairement que sur la souffrance du personnage. Puis je trouve qu'il y a vraiment une belle étude, puis il y a beaucoup d'humour aussi. Puis au niveau stylistique, oui. Je trouvais que c'est un film vraiment bien maîtrisé. Ensuite, aussi, quelque chose que je trouve intéressant, c'est que, bon, on parlait qu'il met souvent en scène des personnages féminins qui sont souffrants, et du coup, il s'est fait traiter à la fois de misogyne, mais aussi de cinéaste féministe. Parce qu'au moins, il nous présente...
Ouais, c'est quand même ironique, ouais.
Ouais, parce qu'il nous présente genre, des personnages, pas nécessairement des personnages, des belles femmes objets, tu sais. Il présente vraiment des personnages qui ont des parcours psychologiques et qui... donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. T'sais. Puis il traite notamment de la question de la maternité ou du désir sexuel féminin, chose qu'on ne voit pas si souvent que ça au cinéma.
Ouais.
Donc moi, je suis vraiment pas prêt à le taxer d'être machiste ou peu importe. Moi, je trouve au contraire, c'est quelqu'un de très sensible. Mais j'avais beaucoup entendu parler de lui avant, plus pour ses écrits, plus pour le Dogme 95, puis pour ses entrevues, puis ce qu'il pensait du cinéma en général.
Ouais.
Donc justement, j'avais été un peu surpris de voir Mélancolia, puis de finalement retrouver très peu de l'esprit du Dogme. Donc là, cette semaine, c'est ça, j'ai vu avec Rémi Nymphomaniac. Et ce matin, pour me préparer pour le podcast, je me suis tapé Antichrist.
Oh my god! Avec un petit café, là, le matin, tranquillos. Ben, Antichrist, ça fesse dans le dash, là. Ouais. Vraiment, là, on va le dire, là. Moi, je trouve que quand on s'y attarde, puis quand on s'attarde au message, je trouve que c'est un film qui mène à rien. Par contre, il y a tellement de choses bien faites dans Antichrist. Puis encore une fois, c'est un film qui... c'est physique, c'est viscéral. Ouais. C'est comme... T'as des moments où tu te caches les yeux. T'as des moments où t'as envie de gueuler. T'as des moments où t'as... Tu sais, il va te chercher ça.
C'est un vrai film d'horreur contemporain, en fait, parce que je trouve qu'il n'y a plus grand-chose qui dégoûte ou qui choque les gens. Puis Antichrist fait réagir tout le monde. Là. C'est vraiment... Ça, c'est unanime. Tu peux détester, mais Antichrist te fait réagir, c'est sûr. Mm-hmm. C'est tellement un film lourd, mais qui utilise les codes du film d'horreur. Là. C'est le chalet perdu dans le fond des bois. Là. C'est vraiment un scénario très classique, mais qui est abordé d'une façon tellement... pas, là, tellement trash. Puis avec l'esthétique aussi, Tarkovski, en fait, là, c'est un hommage à Tarkovski. Puis tu remarques vraiment des plans de caméra puis des ambiances sonores qui sont reprises du cinéaste. Des fois, il va passer des visages puis il va zoomer dans la nature. Là. Tarkovski fait ça souvent. Solaris, là, c'est vraiment c'est un truc qui revient souvent. Fait que moi, j'ai trouvé que l'hommage était là. Puis je garde quand même mon opinion, ce que je disais tantôt, là, même si il y a sa couche d'esthétique beurrée bien épais, là, avec ses derniers films, reste que les personnages sont tellement développés. L'histoire puis les personnages sont tellement la première chose qui importe dans ces films. Je pense que c'est pour ça qu'un film comme Antichrist frappe autant. Là.
Ah oui, c'est ça. C'est la base, je crois. Un bon film d'horreur, t'as pas envie d'avoir juste des personnages stériles dont on se fout, qui vivent des situations horribles et horrifiques. Je pense que c'est une règle d'or, je crois, d'un film d'horreur, somme toute, bien réussi. C'est d'être au moins capable, un petit peu, qu'on s'y attache. Puis des fois, en fait, j'ai l'impression que les réalisateurs de films d'horreur ou les scénaristes savent tellement ça que des fois, par exemple, on dirait que c'est un peu cheap. T'sais, le premier acte où t'as un peu trop de condensé téléromanesque de personnages, là, des fois, c'est un peu ça, puis après ça, ça part en couille. Non, dans Antichrist, je trouve que c'est effectivement bien dosé. T'apprends les connaître au fil du temps, au fur et à mesure. On ne fait pas tout garrocher en exposition en 15 minutes, puis après ça, go pour l'horreur. Non, il y a un côté mystère un peu qui s'épaissit, qui s'assume aussi. Là. Mais je reviens encore une fois à pourquoi ce film? Pourquoi? Quel est le message? Oui, la nature est horrible et peut être aussi méchante que l'homme, mais c'est quoi comme... quel genre de discours qu'il porte? Je le trouve profondément nihiliste et c'est un peu inquiétant, je t'avoue. Ouais. Des fois, j'ai vraiment pas l'impression qu'il a une grande foi en l'humain.
Ben, c'est pour ça que je disais tantôt, je veux jamais rencontrer cet homme-là.
C'est ça,
Il a l'air d'avoir une personnalité exécrable, puis tu le vois dans Five Obstructions, là. Il est tellement mean. Il est avec son ami, puis il a juste l'air méchant. Ça a vraiment pas l'air... Il est nihiliste, comme tu dis, he believe in nothing, là.
En même temps, par contre, à la sortie d'Antichrist, tu sais, il s'était justement défendu que, dans le fond, il a fait ce film-là pour lui avant tout. Et puis qu'il était en dépression un peu à cette époque-là. Donc, pour moi, Antichrist, en fait, je l'ai vu un peu comme l'équivalent de Akira Kurosawa's Dream.
OK, ouais.
Parce qu'il a dit justement que lui, il y a beaucoup de scènes dans ce film-là qui n'étaient pas scriptées, que, dans le fond, ils ont réalisé au fil d'un peu de ses visions et de ses rêves qu'il faisait à cette époque-là.
Ouais.
Parce que le film, bon, pour ceux qui l'ont vu, il y a quelques moments un peu... Mais ça tombe plus dans quasiment dans l'impressionnisme, tu sais, juste des longs plans de brouillard dans la forêt, puis là, les personnages qui dorment souvent. On n'est pas loin d'un univers aussi lynchien, un peu.
Ouais.
Donc, c'est ça, pour moi, je le vois beaucoup plus comme une fable, là, Antichrist.
Ouais.
Je suis pas sûr que... Il faut nécessairement chercher un sens. Ceci dit, je trouve qu'effectivement, Antichrist est un peu trop sur une même note lourde.
Ouais.
Ce qui fait que je trouve qu'il n'y a pas la subtilité et puis une espèce de avoir un plus grand étalage d'émotions comme dans Mélancolia pour moi.
Mais tu l'as dénoté dans Mélancolia, en fait, on dirait qu'il, malgré le fait qu'il y a une volonté claire et nette de faire un gros Christ de film, c'est un peu ça, Mélancolia, mais au moins il se prend pas trop au sérieux. Ce que Antichrist, tu sais, je veux dire, non, c'est pas nécessairement de l'humour, mais tu sais, un peu d'humanité, c'est juste ça. C'est pas de l'humour que j'ai besoin d'Antichrist pour qu'il passe, pour que la pilule s'avale. C'est juste un petit peu de sensibilité, tu sais.
Mais un truc qui peut rattraper tout dans Antichrist, c'est Willem Dafoe. Moi, je sais pas, il est juste là, puis je suis heureux, on dirait, là. Il y a tellement de présence à l'écran, cet homme-là, puis on s'éloigne. Je m'éloigne un peu du réalisateur lui-même, mais on dirait que Willem Dafoe, c'est... il est tellement tout le temps intense. Là. Il y a tellement un visage qui parle, puis le casting était vraiment, vraiment impressionnant dans ce film-là.
Bon. Il y a vraiment un œil pour le casting, hein, Lars von Trier.
Oh my God, semble... oui.
Tu sais, qui aurait parié, mettons, OK, je vais prendre Bjork, puis je la mets sur mes... T'sais, le film est sur ses épaules pendant 2h30, tu sais. Je veux dire, il y a quand même... je pense qu'il y a vraiment une espèce d'instinct pour ça. Tu sais, sa collaboration avec Charlotte Gainsbourg, tu sais, le monde n'était pas sûr au début, là, avant Antichrist, qu'est-ce que ça allait donner. Puis là, une trilogie plus tard, puis... Tu sais, on peut plus, en tout cas dans ma tête, je peux plus séparer maintenant Gainsbourg de Von Trier.
Non, c'est vrai. Puis aussi, il a vraiment fait briller Emma Watson à l'époque avec Breaking the Waves. Je veux dire, c'est une performance qui a été encensée.
Emily Watson.
Emily Watson, de quoi je parle, Emma Watson? Merci de me reprendre, Emily, de quoi on parle.
Emma Watson. Comme, voyons, elle n'est pas là-dedans, il me semble.
Mais non, Emily Watson, merci. Ben là, elle devait avoir moins 2 ans, genre, anyway. En 95, 94, tu sais.
96,
ouais. Ouais, c'est ça. 96, c'est vrai. Mais, ouais, Emily Watson, merci Rémi, mais bon, je savais de quoi je parlais quand même, je suis désolé. Mais, mais c'est ça, mais bref, c'est une grande prestation, puis je crois que, tu sais, il y a quand même un flair pour faire étrangement briller ces comédiennes. Et j'insiste sur le étrangement parce que c'est des supplices, hein? Les comédiennes, ils rampent à terre, ils bavent, ils braillent, ils gueulent, ils courent, ils se battent, ils font tout, tu sais,
ouais.
jusqu'à se mutiler les parties génitales, tu sais, quasiment. Là. Et ben, pas quasiment, là, c'est vrai. Là. Mais,
tu sais que tu fais un film avec Lars von Trier, puis les gens vont s'en souvenir, tu sais.
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça.
C'est vraiment, ça va être un film qui va être marqué, là, ben tu sais. Ouais. La jeune actrice, en fait, qui était dans. Qui était dans voyons, Nymphomaniac. En fait, on ouais. la connaît pas vraiment.
C'était Stacy Martin.
Stacy Martin, mais tu sais, elle accepte un rôle comme ça. Elle sait que sa carrière est startée après. Là.
C'est, ouais. c'est ça. Elle sait que sa carrière est startée, mais que ça sera pas nécessairement. Tu rentres au travail, puis ça sera pas nécessairement une partie plaisir, j'ai l'impression.
Non, c'est ça. Hey, puis vous saviez aussi que juste avant Antichrist, je l'ai pas vu, donc je peux pas en parler, là, mais entre Antichrist. Puis juste avant, il a fait Manderley, là.
Ouais,
qui était d'après moi comme suite, la c'est ça, qui était d'après moi comme la fin de cette trilogie-là avec Dancer in the Dark. Il a fait une comédie. Je sais pas si vous l'avez vu, ça s'appelle The Boss of It All. Moi, je l'ai pas vu, mais j'aimerais vraiment savoir des commentaires là-dessus parce que c'est tellement étrange qu'il ait tourné vraiment une comédie qui est vraiment assumée comme une comédie. Là. C'est pas quelque chose de fucked up weird. C'est vraiment une comédie. Qui a été faite tout de suite avant Antichrist. Là, fait qu'il a comme complètement switché de registre. Là. C'est un an ou deux avant Antichrist, là, c'est en 2006.
Mais c'est vrai qu'on l'a un peu oublié, ce film-là. Hein? C'est
très étrange.
Comme,
c'est oui, 3 ans avant Antichrist, en
c'est
fait.
C'est ça, oui, absolument. Mais je pense qu'en fait, Antichrist, vois-tu, on en parle, puis on en reparle. Je pense que, comme tu l'as dit, en fait, on l'aime ou on l'aime pas, mais c'est vraiment un pivot dans sa carrière. Et non seulement dans sa carrière, mais un peu dans comment que nous, on apprécie sa filmographie en continuité, dans le temps, à travers les époques. C'est vraiment un film qui est quand même des couilles puis qui marque, en fait, puis c'est ça que ça prouve, là, je veux dire, il fait un film là, tout ça, on s'en rappelle pas trop, boum, Antichrist dans le décor, tout le monde a son opinion là-dessus, ouais. Et puis après ça, il y a le momentum, puis après ça, il nous enchaîne un Mélancolia, comme je disais, moi, j'ai des problèmes personnellement avec Mélancolia, mais je sais que ça a été un des films qui a été les plus encensés de 2012, de cette année-là, puis là, je veux dire, avec Nymphomaniac, la campagne de pub, puis tout ça, puis il a l'air de frapper très fort, d'ailleurs, si vous me permettez, je serais curieux de savoir qu'est-ce que vous en avez pensé du fameux Nympho Maniaque.
Ben ouais, parlons-en. Tu parlais d'un film qui a des couilles.
il y a beaucoup de couilles tout le long.
Qui va marquer. Projet vraiment ambitieux, à tout le moins. Hein, vraiment, un espèce de film de 4 heures. Et là, on parle de la version courte censurée. Qu'on a vu, moi et Rémi.
Puis ils nous le mettent dans la face, là, au début, on est rentré dans la salle, puis il y a vraiment une écriture au début du film qui écrit « Cette version a été approuvée par le réalisateur, mais n'est pas le code du réalisateur. » Fait que tu sais, tu files tout le temps un petit vide, genre « Mais qu'est-ce que je manque présentement? » Parce qu'on le sait qu'il y a environ une heure et demie de footage de plus dans la version du réalisateur. Fait qu'on...
Ouais.
Tout le long, on se demande, en fait, comment le film pourrait être construit. Il pourrait être tellement construit de plein de façons. En fait, là, c'est tellement un film dense.
D'ailleurs, hein, on parle d'une version censurée, mais c'est très explicite. Là. C'est vraiment pas un film pour les enfants. pour ceux qui se le demandaient. Là. Et aussi, il est disponible en VOD en même temps que la sortie en salle dès le 21 mars, dès vendredi.
Puis mettons que pour une petite date, là, c'est un bon film de date.
Faut que tu sois avec quelqu'un qui tripe sur le cinéma. Ouais. Mais par exemple, autant que ces deux derniers films, je suis sorti des salles vraiment déprimé, puis je voulais plus vivre. Nymphomaniac, au contraire, là, tout le long du film, j'ai ri. Puis dans les deux parties, en plus, la première partie a fini, il y avait comme une pause. Puis on s'est regardé, moi et Paul, puis on était comme, ouais, la deuxième partie, je pense qu'elle va être plus intense. Mais non, c'est encore drôle. Il y a des moments très choc à la Lars von Trier, là, qui te font ton cœur se squeeze. Mais reste que le film, il va plus dans l'humour que ces deux derniers.
Okay. Ouais, définitivement.
Il y a une certaine légèreté à certains bouts, puis vraiment un humour visuel. Il y a des bouts qu'on voit dans la bande-annonce où, exemple, tu vas juste avoir un flash où elle parle qu'elle a commencé à découvrir son corps, puis un flash de elle qui est dans une salle de classe qui se pointe vraiment les parties génitales, mais t'as bien une petite écolière, puis c'est comme vraiment un flash complètement absurde, farfelu dans le contexte du film. qui rajoute vraiment une légèreté tout le long du film. Des petits moments comme ça, des petits clins d'œil, mais c'est ça. Mais reste qu'on replonge dans le darkness à plusieurs moments. Là. Ouais. C'est un film qui est très, très lourd, puis encore le déclin d'un personnage féminin. Là.
Ben, puis c'est intéressant parce que je pense que c'est un peu dans l'air du temps, mais on dirait qu'il y a une volonté dernièrement de certains cinéastes, on parle entre autres de La vie d'Adèle, L'inconnu du lac, etc., de vouloir un peu brouiller les cartes entre ce qui est la pornographie puis ce qui est de l'art, ce qui est du cinéma mainstream. Un autre film qui s'inscrit là-dedans, et on se souviendra hein, que la compagnie Zentropa, la compagnie de production de Lars von Trier, avait réalisé des films de pornographie féministes. Ce qui est peut-être un non-sens, mais du moins, c'était ça le but, en fait, au début des années 2000. Okay, des films surtout qui ont joué en Europe et qui ont été vraiment défendus par certains groupes féministes, d'autres qui ont crié au scandale, etc. Mais il y a vraiment une volonté un peu de soit banaliser la sexualité ou du moins de ne pas le démoniser. Parce que, et oui, les femmes également ont des désirs sexuels. Donc, ça, je trouve déjà, c'est vraiment un bon point. Tu sais, ça fait partie, je pense, de l'infomaniac, s'inscrit dans une démarche vraiment sincère. Mm-hmm. Mais maintenant, c'est ça, l'infomaniac, gros film de 4 heures, très comique, mais divisé en deux parties. Mais c'est vraiment un film divisé en deux parties et non une suite, c'est ça.
OK, mais pourquoi? Pourquoi l'avoir divisé au-delà du fait qu'ils peuvent peut-être faire deux fois plus d'entrées, là?
Ouais, je pense que c'est uniquement d'un point de vue marketing.
Ah ouais, tu penses? Parce qu'il n'y a pas, de réel but, dans le fond, à séparer le film?
Non, du tout. Puis pour vrai, la façon que ça finit...
C'est vraiment un cliffhanger, là.
Ben, on a comparé ça dans la salle à Back to the Future 2 qui finit en te montrant les extraits du prochain. Là.
Ouais,
c'est vraiment ça. Pendant le générique de la première partie, t'as des extraits de la suite avec genre à suivre dans partie 2, puis ça finit hyper, hyper sec. Il n'y a pas de courbe narrative qui se complète dans la première partie. Là. C'est vraiment, on est en plein milieu du film, puis aller voir le deuxième. Là,
puis,
c'est...
puis au-delà de ça, vous, comment vous le filez? Comment vous, t'sais, est-ce que vous trouvez que c'est un bon coup? C'est un mauvais coup? Parce que tu sais, comme quand ils ont séparé Dead Proof et Planète Terreur, c'est un très mauvais coup.
Ouais. Ben moi, je le compare plus à Kill Bill, en fait, que c'est un projet qui a commencé peut-être comme un seul film, mais qui est devenu tellement ambitieux, soit à l'écriture, soit au tournage, que finalement, on s'est dit, ça n'a pas de bon sens. Déjà, les producteurs ont dit, ben là, 5h30, c'est trop, on va faire une version de 4 heures. Puis là, éventuellement, ils vont voir la version longue, peut-être en cinéma, peut-être directement en DVD Blu-ray. Mm-hmm. Mais c'est ça, je pense que c'est juste un énorme projet qu'on a dû couper. Et je recommande, pour ceux qui veulent aller voir le film, de vous préparer à voir les deux films un après l'autre, parce que sinon, vous allez vraiment être frustrés.
Puis Coït interrompu, vraiment, là. Mais c'est vraiment ça. Là. Ben, Kill Bill, même Kill Bill 1, en fait, se rappelait plus que ce film-là.
Ouais, parce que c'était...
Il te laissait sur ta fin, mais t'avais quand même une finale au film. Il n'y a aucune finale, là. C'est vraiment, on coupe sec, puis c'est à suivre dans la prochaine partie.
Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas comme un modèle de suite, là. C'est vraiment, tu finis Kill Bill 1, t'as le goût de voir le 2, tu sais.
Qui sortait un an plus tard. Moi, je trouve que c'était plus... t'avais plus le temps de respirer parce qu'il y avait quand même vraiment... Tu sais, il y avait la grosse toune de fin, puis il y avait comme...
Ouais.
Maintenant, j'en ai tué deux, il m'en reste trois à aller chercher. C'était comme... Je sais pas, il y avait... Mais là, c'était vraiment comme... Tu peux pas aller au cinéma voir la première partie sans voir la deuxième, c'est impossible. Donc, si t'es cinéphile un minimum, c'est impossible que tu puisses laisser ça comme ça, tu sais.
Puis en même temps, par contre, les deux parties se répondent, parce que la première partie est vraiment plus sur le lot de la comédie, vraiment plus farfelue, voire absurde, et la deuxième partie est un peu plus sombre quand même, puis y a vraiment, c'est comme un peu les deux côtés d'une même pièce, en fait, sur un personnage d'infomaniaque. On va rentrer un peu dans la critique du film en tant que tel. C'est vraiment... Il y a un parti pris superficiel qui est vraiment risqué et qui va vraiment déplaire à plusieurs personnes. J'en ai notamment parlé à certains collègues journalistes. Puis c'est vraiment pas tout le monde qui a aimé le film. Je pense que le buzz est plutôt négatif parce qu'en fait, tout le film se veut une discussion entre Charlotte Gainsbourg, son personnage, qui est Joe, qui, d'ailleurs, ce nom assez, encore une fois, intéressant au niveau des genres et de l'identité sexuelle, parce qu'elle agit plus comme un, on va dire, comme un homme en général, entre guillemets, là. Mais donc, Joe qui est retrouvé inconscient dans une ruelle, et il y a une espèce de prologue aussi qui est pas mentionné, prologue, mais tu sais, au début, quelques minutes, là, sans dialogue, et c'est comme la caméra qui se promène, et que ça fait un peu Lynch, d'ailleurs, on rentre à un moment donné dans une espèce de tuyau noir dans un mur, on revient ensuite, donc quelque chose de là vraiment intéressant, puis là, j'ai l'impression d'être vraiment dans la continuité de Mélancolia, une espèce de film lourd, ça. Mais c'est là que le personnage de Sagard, je sais pas comment prononcer son nom, là.
C'est, Stellan Skarsgård, là, j'ai lu.
Ouais, c'est ça. En tout cas, cet acteur-là qui a joué souvent avec Lars von Trier, qui joue le rôle d'un intellectuel et qui trouve cette femme-là inconsciente à terre. Donc, il dit « Ah, mon Dieu, ça va-tu? Est-ce que j'appelle la police? » Quelque chose comme ça. Là, elle veut pas, mais elle dit « Ah, je prendrais bien une tasse de thé, par contre. » Donc, elle va chez l'homme. Et finalement, tout le reste du film, c'est elle qui lui raconte son histoire. Et d'ailleurs, il y a plein d'effets de distanciation. Les personnages eux-mêmes font référence au chapitre du film. Donc, c'est comme, tu sais, Charlotte Gainsbourg, le personnage de Joe, elle regarde autour de la chambre, puis là, elle voit, mettons, un cadre, puis elle dit « Ah, je vais appeler le prochain chapitre, tu sais, l'Église de l'Est et l'Église de l'Ouest. » Et dans le fond, le personnage de Salgar est toujours après l'interrompre, et il lui dit... Bon, il fait tout le temps des parallèles avec la pêche parce que lui aime la pêche, puis c'est vraiment tiré par les cheveux, mais on veut ça un peu. Donc, du coup, le film, c'est comme si c'était une réaction à la critique. Moi, je le vois comme ça, en fait. C'est comme si Lars von Trier répond à la critique et met en scène un personnage de critique intellectuelle, vierge, face à son personnage de femme tourmentée qui, elle, est nymphomaniaque. Et c'est comme si un discours intertextuel, en fait, mm-hmm. au fur et à mesure que tu écoutes le film. Donc, il y a vraiment un effet de distance qui est pas nécessaire. Moi, je trouve que c'est un peu superficiel, puis ça agace un peu au début. Mais bon, tu finis par rentrer dans le film.
Ouais, au début, moi, j'étais pas sûr, en fait, d'aimer ça à cause de ça. Parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup trop d'allers-retours, d'après moi, entre l'histoire qu'elle raconte puis les flashbacks.
Okay, okay.
Puis on dirait qu'à chaque fois, on pouvait pas assez plonger dans le film, qu'on était ramené tout de suite à elle qui raconte l'histoire. Donc, à chaque fois, on dirait que c'était... genre, ils m'en donnaient pas assez pour que je sois vraiment avec eux autres. Mais à un certain point, par exemple, peut-être à une demi-heure dans le film, ce qui est quand même pas si mal dans un film de 4 heures, t'es toute là, puis t'écoutes, puis t'es entièrement investi dans le film. Là.
Ouais.
Mais le début, c'est très, très étrange, en fait, la façon qu'ils discutent. Puis comme Paul, il dit, l'espèce de distanciation à parler des chapitres du film comme étant les chapitres de son histoire. Puis c'est un peu... cette double lecture-là est un peu agaçante au début. Il faut vraiment que tu t'y fasses, en fait, dans le film pour vraiment embarquer complètement. Quelqu'un qui accepte pas ça va avoir de la misère tout le long du film, disons.
Puis commençons, parce qu'il y a quand même une brochette de comédiens assez impressionnante. Paul, tu m'as glissé hors d'onde qu'il y avait certains qui frôlaient le caméo, en fait, que ça pouvait être quasiment un peu de la, entre guillemets, de la fausse représentation, là, t'sais, de autant miser sur tel ou tel nom ou telle vedette pour la promotion. Par contre, je suis quand même curieux de savoir, en fait, qu'est-ce que vous avez pensé des personnages, du jeu en général, du casting?
Ben, des personnages comme le personnage qui joue le serveur, Udo Kier, tu sais, qui était là pour son visage parce qu'il était là, il est là, je pense, 1 minute et demie, 2 minutes dans le film. Là.
Ouais.
Il fait vraiment un caméo de serveur dans le film. Tu sais, mais il était annoncé comme un acteur dans le film. Je pense que c'était plus pour un truc de marketing.
Mais c'est une des meilleures scènes du film aussi.
Ah, c'est super bon, cette scène-là. Mais pour vrai, ce qui m'a surpris le plus, moi, c'est la présence de Charlotte Gainsbourg, en fait, qui est beaucoup, beaucoup là... alors qu'elle raconte son histoire, donc elle est vraiment présente tout le long du film, mm-hmm. tout le long des 4 heures. Mais en fait, dans les flashbacks, elle apparaît seulement dans la deuxième partie, puis peut-être à une demi-heure dans la deuxième partie. Donc, on la voit pas vraiment en action, elle. C'est vraiment Stacey Martin sur qui le film repose beaucoup dans la majeure partie de Nymphomaniac.
Ah, c'est intriguant,
Ainsi que Shia LaBeouf, là, qui a quand même un très gros rôle dans ce film-là.
Oui, oui. En fait, c'est ça. Charlotte Gainsbourg est comme la version plus vieille de Stacey Martin. Puis, c'est vraiment drôle. En fait, il y a un bout où Shia LaBeouf, je sais jamais comment le prononcer, là. Mais Shia, en fait, joue un personnage, le premier amant de Joe, puis qu'elle va revoir plusieurs fois dans sa vie. Puis son personnage, ça prend vraiment beaucoup de temps avant qu'il fasse un switch d'acteur pour le montrer plus vieux. Mais Charlotte Gainsbourg, en fait, passe de Stacey Martin à Charlotte Gainsbourg tout en étant avec Shia. Fait que moi, là-dessus, j'ai comme décroché un petit peu au fait qu'ils ont comme pas fait le switch en même temps là, des acteurs. Là. Mais disons que bon, c'était pas un si gros problème. Puis Shia vraiment comme fait un bon travail malgré sa weirdness, il réussit à vraiment bien tirer son épingle du jeu, je pense, dans le film, puis s'éloigner des rôles qu'on y a vraiment accordé avec Transformers et Disney Channel, là.
Ouais. Il y a Uma Thurman aussi qui a une bonne scène, mais qui est là peut-être 10 minutes dans le film ou 15 minutes. Mais tu sais, quand elle est là, c'est une grosse scène qui fesse, puis elle est vraiment bonne. Sinon, Kristen Slater aussi, au début du film, qui joue dans le fond le père de Joe, qui est mourant, qui n'est pas là souvent, mais qui va avoir une portée assez grande tout le long du film.
Ben, il est quand même là longtemps, pour vrai, il revient par bout, il revient pas mal tout le long du film, mais par petits bribes.
Ouais, c'est ça. Mais donc, ouais.
Un personnage très important, en fait, pour la lignée dramatique du personnage de Joe. Là.
Ouais, c'est ça. Mais globalement, les acteurs s'en tirent très bien. Hein. Même, tu sais, je sais que Shia LaBeouf, ça, il n'est pas très apprécié en général, mais il est très bon là-dedans. Mais encore une fois, moi, c'est vraiment le côté distanciatif qui est vraiment difficile à avaler. Comme par exemple, là, tu parlais de la scène où il prend la virginité de Joe. Mais tu sais, justement, elle fait un commentaire comme quoi qu'il bon, je vais être un peu vulgaire, là, mais il l'a baisé, en gros, là, sur le dessus trois fois, comme trois coups de bassin. Il la retourne et analement cinq fois. Et sur l'écran, justement, c'est vraiment joué à la blague. Tu as des coups un peu de machine à boules en même temps qui donne ses coups de bassin. Et tu as les gros chiffres 3 plus 5 qui apparaissent sur l'écran en superposition. Puis tout ça, ça a fait une espèce d'effet comique. Mais tu sais qu'on dirait... Parfois, tu as quasiment l'impression dans un film de Wes Anderson tordu un peu, là, avec des espèces de petites in-jokes. À un moment donné, elle dit « Ah, j'ai tellement vu de sortes de pénis différents. » Puis t'as un montage de différents pénis de différentes tailles, des hommes de différentes nationalités. Donc du coup, c'est drôle, mais le film ne choque pas du tout, en fait. Moi, je me suis surpris à être très peu sensible à ça. Je sais pas si c'est parce que c'est notre génération qu'on est complètement désensibilisé, mais je peux te dire, là, Antichrist, un matin, ça rentre 10 fois plus que tout ce qui se trouve dans l'infomaniaque. C'est ça qui m'a surpris, en fait, à quel point le film était plutôt du type comique, en fait. Ouais, je sais pas comment le dire. Là,
ben, c'est ça, c'est un film qui est quand même drôle. C'est vraiment bizarre de dire ça, un film de Lars von Trier dans cette trilogie-là. Ouais. Mais c'est un film qui est quand même drôle, mais quand les moments chocs arrivent, sont quand même, ouais. D'après moi, sont assez forts. Là. La scène, justement, avec Uma Thurman, t'as vraiment un gros moment qui... Elle fait, en fait, elle joue la femme d'un amant de Joe. Qui vient un peu, qui essaie de venir retrouver son mari qui est chez Joe. Ouais. Puis c'est une grosse scène vraiment lourde puis vraiment malaisante. C'est très bien fait, mais c'est que c'est dans le contexte d'un film qui est quand même, comme tu dis là, c'est Wes Anderson tordu. J'aime ça quand même comme façon de voir ça.
Mais mettons que vous aviez à le ranker sur 10, là, juste parce que genre, j'ai de la misère à saisir, à mettre un doigt sur à quel point vous avez aimé le film. Est-ce que vous êtes capable vous-même de vous prêter à l'exercice de si vous aviez à le ranker sur 10, mettons?
Ah, tu sais que moi, j'haïs ça, ranker des films, parce que demain, j'aurais peut-être pas la même cote. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Okay. Ça pourrait être un 8.5. Genre, oh, okay, nice. Mais je sais pas qu'est-ce que ça vaut de dire ça, là, pour vrai. Là.
Non, mais ça m'aide à juste comme savoir un peu à quel point jauger votre enthousiasme.
Rémi, tu veux parler aussi d'un autre personnage avant de
finir? Ben, un autre personnage que j'ai vraiment aimé, en fait, c'est le personnage de Jamie Bell. Jamie Bell, qui est comme tout soft, tu sais, son premier rôle au cinéma, c'était Billy Elliot, puis il a joué Tintin aussi, c'était lui qui jouait Tintin dans l'adaptation, puis tu sais, il est tellement soft, puis il fait un dominateur, là, les femmes vont le voir pour se faire dominer, puis se faire violenter, torturer par lui, puis il joue un rôle hyper froid, mais il a tellement une face gentille, puis il joue tellement froidement que c'est, ça c'était vraiment un personnage, moi, qui m'a beaucoup, beaucoup marqué dans le film, que j'ai trouvé très excellent, puis que Jamie Bell, c'est pas un gars qu'on voit très souvent dans des très... Ben, il a fait beaucoup de gros films, mais on dirait que c'est pas... tu sais, c'est pas un A-list, là, mais pour vrai, c'est... Je pense qu'il a assez de torque pour prendre des, prendre des gros films sur ses épaules, là.
Mm. Ben, toi... ben, moi, en fait, ce personnage-là, je l'ai lu comme une représentation de Lars von Trier lui-même. Tu sais, un espèce de jeune homme artiste, parce qu'il veut pas baiser avec les femmes. Tu sais, lui, c'est vraiment une espèce d'installation performance qu'il réalise. Puis on comprend pas pourquoi, qu'est-ce qui attire, mais toutes les femmes vont vers lui malgré tout, tu sais, puis sont prêts à être en salle d'audition, parce que vraiment, il y a une espèce de salle où, tu sais, il arrive, il ouvre la porte, puis il choisit, bon, toi, va-t'en, t'es pas bonne, tout ça. Et puis, tu sais, on peut accuser ce personnage-là, finalement, d'être vraiment vide, puis d'être nihiliste, ou peu importe, ou d'être misogyne, mais il y a certains qui vont dire, non, ce qu'il fait, c'est de l'art, tu sais. Donc, moi, je voyais vraiment comme une espèce de lecture un peu rigolote de lui-même, là. Mais en tout cas, c'est un film dense. Moi, je pense que c'est un film à voir, ne serait-ce qu'un peu pour être dans la conversation, parce que c'est sûr qu'on va encore parler de ce film-là dans les prochains mois. c'est un film qui va faire jaser. Est-ce que c'est un grand film? Je pense pas. Je pense que c'est une espèce de pari risqué qui marche à moitié. Moi, peut-être, je le mettrais à 7 sur 10, peut-être. Mais tu sais, c'est un film vraiment qui a des bons moments, que tu sais, c'est à voir, puis c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de talent, mais j'ai préféré un film comme Melancholia, mais qui n'est pas vraiment comparable, outre que c'est tellement pas le même ton que c'est deux expériences différentes.
Ok, bon. Ouais, effectivement.
Donc, sinon, qu'est-ce qui sortait en DVD ce mardi, Rémi?
Hey, j'ai beaucoup de sorties, fait que d'habitude, je fais un top 3. Je l'ai pas fait la semaine passée, puis je vous le ferai pas cette semaine. Fait que j'en ai un petit plusieurs. Il y a American Hustle qui sort.
Ah ouais.
C'est pour ceux qui l'ont manqué au cinéma. Frozen, les gars, vous avez vu, vous avez aimé aussi, là?
Ouais, c'est le fun, Frozen.
Ça va, ouais.
Du côté du Québec, il y a deux très bons films qui sortent. Non, pas deux très bons, en fait. Il y en a un que j'ai pas vu dans les deux, puis je veux pas t'en le voir, c'est Il était une fois les Boys. Mais le très bon, en fait. Je l'ai pas vu, je peux pas critiquer. Mais le très bon que je voulais souligner, c'est Vic et Flo ont vu un ours.
Yeah.
En tout cas, je pense que c'est juste un must-see. Ça a été mon film québécois de l'année dernière. Donc voilà. Et puis un petit que je veux souligner aussi en plus, c'est moi j'adore les studios Trauma dans leur touche série B. Puis leur dernier film vient juste de sortir en DVD, c'est Return to New Kemai Volume 1, qui est un film en deux parties, comme Nymphomaniac. C'est le même combat que Nymphomaniac. Donc Return to New Kemai Volume 1. Voilà.
Parfait. Et en salle, Pascal, qu'est-ce que ça va vendredi?
Le film dont j'ai fait une critique tantôt, Les garçons et Guillaume à table de Guillaume Gallienne, ça sort ce vendredi. Il y a le fameux Nymphomaniac qui sort ce vendredi. Il y a Québécois, j'espère que tu vas bien, 2 de David Lahaye, film assez intéressant dans son approche, et une suite aussi, pourquoi pas. Et finalement, ben voilà, le Grand Budapest Hotel qui sort. Je pense que ça sort seulement, je pense, une journée au cinéma du Parc ou quelque chose comme ça, parce qu'après ça, je pense que ça sort de façon plus élargie le 28 mars. Mais dès le 21 mars, il y a moyen, là, si vous avez le radar ouvert, il y a moyen de pouvoir voir le nouveau film de Wes Anderson. Voilà.
Ben, je pense qu'on a tous hâte de le voir. On va peut-être en parler la semaine prochaine au podcast.
Oh yeah!
Suggestion répertoire, c'est dans un petit bout, mais je voulais le mentionner, c'est jeudi le 27 mars à 20h au cinéma Excentris, la seule représentation du film Jodorowsky Dune, de Frank Pavitch, donc c'est ce documentaire sur ce film qui n'a jamais eu lieu.
Je veux tellement voir ça, c'est probablement le film que je veux le plus voir qui s'est jamais fait.
Le Dune, voilà. Ça serait fou.
Donc j'ai vraiment hâte de voir ce documentaire-là, et nous, ben, on va aller découvrir la bande-annonce de J'espère que tu vas bien d'eux, David Lahaye, une petite production indépendante québécoise. C'était notre point de vue, mon nom est Paul Andriot et j'étais avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Plante.
On a juste essayé.
Je viens de te dire!
On va aller bien après.
Tu me rends folle!
L'agrandissement de la star chez les femmes, ils font...
Toutes les chicks, ils veulent se refaire faire la snatch.
Quoi?
Ils veulent se refaire faire la snatch. Toutes les filles, c'est la grosse nouvelle affaire.
C'est quoi
les filles, la vaginoplastie.
Mais voyons!
J'ai lu ça dans le Journal de Montréal.
Mais oui. Ah!